Voilà, vous avez vu tous les enfants ou ados qui passent d'un groupe à l'autre. Et j'aimerais maintenant vous inviter à nous plonger un petit peu dans la Bible et découvrir un texte qui nous parle aussi de transmission de la foi. Alors, vous avez peut-être été un peu étonnés en recevant le Frat News, culte de fin d'année, un texte de juge. Alors, on se dit, oh là là, le livre des juges, c'est terrible, il y a tellement de drames dedans. Eh bien, en fait, il y a aussi des textes qui sont encourageants, ou en tout cas qui peuvent nous encourager dans notre vie d'église. Et puis, j'ai aussi choisi un texte en juge, parce que vous l'avez entendu dans le discours, le mot d'Odile, au programme des KPJ, cette année, ce semestre, on a vu Josué, juge, Ruth. Alors voilà un nouveau texte pour vous, les KPJ, que vous n'avez pas vu le dimanche matin, mais qui vous parle aussi, parce qu'il parle de parents et d'enfants. Pour commencer, j'aimerais demander justement au KPJ, est-ce que dans les histoires que vous avez vues, Josué, juge Ruth, vous trouvez que le peuple de Dieu a fait des choses ensemble? Au début du culte, on a cherché des synonymes du mot « ensemble ». Est-ce que vous trouvez que parfois il y a eu des choses que le peuple il a fait ensemble? Vous vous souvenez d'histoires? Qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble? N'importe quoi, un déplacement, une activité, une conquête. Vous avez de la chance d'avoir Odile qui souffle derrière vous. Talia.
Jéricho.
Jéricho, ouais, quand ils ont abattu les murailles de Jéricho, ils l'ont fait ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre ensemble?
Quand ils vont traverser le fleuve.
Ils ont traversé le fleuve du Jourdain, c'est vrai, ils l'ont fait ensemble. Une autre idée? Les grands, si vous avez une idée, vous pouvez aussi la crier, à la jeter, à la voler. Quand ils ont été à la guerre, exactement, bah c'est vrai, mais ils l'ont fait ensemble. Et toutes sortes d'autres conquêtes et d'autres miracles que Dieu leur a permis de vivre ensemble. C'est vrai qu'on voit dans toute la Bible que le peuple est toujours ensemble pour faire les choses. Dieu donne un ordre au peuple ensemble, et puis le peuple l'accomplit ensemble. C'est un petit peu un fil rouge comme ça de tout l'Ancien Testament, et c'était un fil rouge aussi dans Josué, Juge et Ruth. Alors vous savez, vous souvenez Josué, c'est ce grand leader responsable du groupe qui a donné suite à Moïse et qui a permis au peuple de Dieu d'aller jusqu'au territoire promis, au pays promis, de traverser le Jourdain ensemble et d'entrer dans ce beau pays promis. Ça y est, les Israélites y sont, ils viennent de passer le Jourdain. Et puis c'est là que j'aimerais vous proposer de lire un texte qu'on va lire en deux fois pour y réfléchir mieux en deux fois. Ça se trouve donc dans Juges chapitre 2, les versets 6 à 16, mais on va lire d'abord les versets 6 à 9. Voilà ce qui se passe pour le peuple. Après que Josué eut congédié l'assemblée, alors donc l'assemblée c'est le peuple d'Israël qui s'est réuni autour de Josué pour que Dieu leur parle. Après qu'il a congédié l'assemblée, les Israélites se rendirent chacun dans la part de terre qui lui revenait dans le pays promis et occupèrent ainsi le pays. Ils servirent le Seigneur durant la vie de Josué et après sa mort, tant que vécurent les anciens qui avaient vu les grandes œuvres accomplies par le Seigneur en faveur d'Israël. Josué, fils de Noun et serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. On l'enterra dans la propriété qui lui avait été attribuée à Timnath-Hérès, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gaash. Ça y est, les Israélites sont là, ils s'installent. Après avoir été esclaves en Égypte, après avoir été délivrés par Dieu au travers de 10 fléaux, après avoir été libérés des Égyptiens grâce au miracle de la mer Rouge qui s'ouvre et le peuple qui passe au milieu, après avoir été guidés par Dieu dans le désert avec, vous souvenez, une colonne de nuée ou une colonne de feu la nuit ou le jour, après avoir reçu miraculeusement des tables avec les 10 commandements qui permettaient de comprendre ce que Dieu voulait, après avoir vécu la présence de Dieu dans divers miracles, conquêtes, etc., ça y est, le peuple est arrivé dans le pays promis. Et bien, comment est-ce qu'on les décrit à ce moment-là? Au verset 7, là, on nous dit que c'est un peuple qui sert Dieu durant la vie de Josué, durant toute la vie de Josué. En fait, c'est un peuple qui est ensemble pour servir Dieu. Ils se réunissent ensemble pour servir Dieu. C'est un beau témoignage, une belle observation à faire de ce peuple-là. Ils sont ensemble, pas seulement pour les guerres, mais ils sont aussi ensemble pour aller devant Dieu et louer Dieu pour le servir, donc se mettre à son service. Et tant que ceux qui ont vu ces choses-là, hein, les anciens qui ont vu les miracles de Dieu sont là, eh bien le peuple sert Dieu. Alors merci aux anciens du peuple qui font ce lien entre tous les miracles d'Égypte, du désert et l'arrivée dans le pays promis. La foi, notre foi n'est pas seulement basée sur les connaissances que nous avons des choses. Les anciens du peuple, là, ils font ce lien entre Dieu parce qu'ils ont eu l'expérience, entre Dieu et le peuple, parce qu'ils ont eu l'expérience de Dieu. Ils ont expérimenté la puissance de Dieu. Ce n'est pas seulement qu'ils ont entendu parler que oui, il y avait un Dieu, qu'on a la Bible, etc. Mais ils ont vécu ces miracles-là. Et donc, ils permettent au peuple de garder une connexion à Dieu. Alors, je vous invite à regarder autour de vous, à votre gauche, à votre droite. Est-ce que vous avez quelqu'un de plus âgé ou plus jeune que vous ? Si vous avez quelqu'un de plus âgé, vous pouvez lui dire merci, parce que c'est grâce à elle, peut-être pas elle en particulier ou en personne, mais grâce à sa génération, que vous êtes là ici, que l'Église se construit, que vous continuez de grandir dans votre foi. Ça me fait plaisir que vous le fassiez, que vous discutiez ensemble. C'est ça l'Église. On est différentes générations ensemble et on peut se remercier parce qu'on construit notre foi ensemble. Mais malheureusement, la suite de l'histoire ne se passe pas aussi bien. Malheureusement, la suite de l'histoire nous montre que l'unité de ce peuple, qui était si importante, commence un peu à se diviser, se fragmenter. Il y a une page qui se tourne, Josué meurt, il a 110 ans, belle vie. Mais après sa mort, les choses changent. Alors je vous invite à lire la suite des versets, et pendant la lecture, réfléchissez à ces deux questions. Qu'est-ce qui ne s'est pas passé ensemble d'une génération à l'autre ? Et qu'est-ce qui s'est mal passé ? Comment on aurait pu mieux faire les choses ? Qu'est-ce qui aurait pu mieux se passer ? Réfléchissez bien, parce qu'après je fais tourner le micro. Donc qu'est-ce qui s'est passé d'une génération à l'autre et qu'est-ce qui aurait pu mieux se passer ? Dans la suite du texte, les versets 10 à 16. Puis, les gens de la génération de Josué moururent à leur tour. La génération suivante n'avait plus de connaissances personnelles du Seigneur et des œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Les Israélites firent alors ce qui déplaît au Seigneur et se mirent à adorer les dieux Baal. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils rendirent un culte à d'autres dieux, ceux des peuples qui vivaient autour d'eux. Ils s'inclinèrent devant ces dieux et irritèrent ainsi le Seigneur. Ils abandonnèrent donc le Seigneur pour adorer les Baals et les Astartés. Ça, c'est des dieux des autres peuples. Le Seigneur se mit en colère contre les Israélites. Il les laissa sans défense devant des bandes de pillards qui les dépouillèrent. Il les livra aux ennemis qui les entouraient, si bien qu'ils ne purent plus leur résister. Chaque fois qu'ils allaient au combat, le Seigneur faisait échouer leur expédition, comme il le leur avait annoncé et juré. Et ils tombèrent dans une profonde détresse. Mais alors, le Seigneur mit à leur tête des juges et ceux-ci les délivrèrent du pouvoir des pillards. Qu'est-ce qui ne s'est pas passé ensemble d'une génération à l'autre ? Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui s'est mal passé ? Qu'est-ce qui aurait pu mieux se passer ? Lydia.
En fait, comme tous ceux qui vivaient avec Josué sont morts, ils ne savaient plus qui les avait délivrés, donc ils ont mis à adorer des autres dieux.
Effectivement, ouais, tu as tout à fait raison. Comme les anciens du peuple sont morts, ils ne savaient plus qui était le vrai Dieu et ils ont adoré d'autres dieux. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? Là, les grands enfants, vous avez le droit de participer.
Il a donc manqué la transmission.
Il a manqué la transmission de quoi ?
De la foi, des œuvres du Seigneur.
Mm-hmm. Ouais, effectivement.
Ils n'ont pas su qui était le vrai Dieu, donc ils ont un peu changé la loi ?
Ouais, c'est vrai. Ils ne savaient plus qui était le vrai Dieu, donc ils ont changé leur manière de faire, leur manière d'adorer. T'as raison. Qu'est-ce que vous diriez de plus ?
Il leur manquait une relation personnelle avec Dieu.
Mmh. Effectivement. Comment vous auriez fait mieux ? Dans un monde idéal, parce qu'évidemment, on n'est pas mieux que ce peuple-là, mais si on pouvait imaginer une fin meilleure, qu'est-ce que vous imagineriez comme meilleure fin pour ce peuple ?
Bah, ils auraient dû dire à ses enfants que c'est Jésus le vrai Dieu, et qu'ils disent à leur enfant que c'est Jésus le vrai Dieu. Ils auraient dû faire ça.
Exactement, tu as tout à fait raison. Ils auraient dû mieux passer de parents en enfant, mieux transmettre toutes ces choses-là. C'est vrai. Mais au lieu de ça, c'est une nouvelle génération qui arrive, qui est laissée à elle-même et qui se retrouve à adorer d'autres dieux. Alors il y a un saut, c'est vrai, il y a un trou dans la transmission de la foi, c'est vrai. Une génération meurt et puis il n'y a plus de connaissance du vrai Dieu. On ne sait plus qui il est. Alors il semble que la nouvelle génération, elle devait quand même savoir quels actes Dieu a fait, puisque nous, on a notre Bible aujourd'hui entre les mains, donc ça s'est forcément transmis à un moment donné, forcément. La transmission des actes de Dieu s'est faite. Mais c'est peut-être justement au niveau de la foi, de la relation personnelle avec Jésus, qu'il y a quelque chose qui a manqué. Je trouve que ce texte, c'est un bel exemple de mise en garde pour nous aussi. C'est vrai que c'est un texte difficile, hein, je vous ai dit, Livre des Juges, on voit après tout ce qui s'abat sur le peuple de la part de Dieu. Mais ce texte nous met en garde. Comment est-ce qu'on veut transmettre la foi dans notre Église ? Et puis là, j'aimerais élargir un petit peu, parce que certains d'entre vous, vous êtes parents, vous êtes venus ici avec vos enfants, ou bien grands-parents, oncles, tantes. Puis certains d'entre vous, vous n'avez pas d'enfants, ou pas ici dans la frate en tout cas. Mais ce texte nous parle à chacun d'entre nous, parce qu'on pourrait élargir. La transmission, elle ne se fait pas seulement de parents en enfants, mais déjà, d'une part, chacun d'entre nous, nous avons un rôle à jouer pour les enfants et les jeunes de notre fraternelle, dans la manière dont nous nous comportons, dans ce que nous leur disons, dans la manière dont nous nous investissons auprès d'eux, la manière dont nous nous tenons au culte le dimanche, ou notre présence au culte le dimanche, c'est déjà immense pour ces enfants-là, pour nos enfants, pour les enfants de la frate. Et puis, on peut élargir encore plus loin. La transmission, elle ne se fait pas entre les générations. Mais aujourd'hui, où notre monde n'entend plus beaucoup parler de Dieu, la transmission, elle se fait aussi avec nos amis, nos voisins, nos collègues, les personnes de notre famille qui ne sont pas forcément attachées à cette foi-là, à cette relation avec Dieu. Alors ce texte nous apprend quelque chose. Malheureusement, la conséquence pour le peuple de cet abandon de Dieu, c'est que Dieu s'abat sur son peuple. Et puis déclenche des drames pour ce peuple-là. On dirait, oh là là, Dieu, un Dieu si sévère, un Dieu qui est si violent. Mais en fait, on devrait plutôt regarder dans l'autre sens et peut-être relire ce petit verset là qui disait, voilà, verset 15, hein, le Seigneur faisait échouer leur expédition comme il le leur avait annoncé et juré. En fait, ce n'est pas une surprise pour le peuple, c'était annoncé. Si le peuple se détourne de Dieu, alors quelque chose de mauvais va s'abattre sur lui. Et puisque le peuple a trahi l'alliance, alors Dieu se retire. Même s'il a eu de nombreuses conquêtes victorieuses jusque-là, eh bien, d'une génération à l'autre, tout s'écroule, on dirait. Toute l'histoire du peuple s'évapore parce qu'il y a un saut d'une génération à l'autre. C'est ni imprévisible, ni injuste, c'est la justice de Dieu qui a des conséquences, qu'on le suive ou pas, lorsqu'on le suit ou pas. Mais finissons quand même sur une note très positive, ce verset 16, qu'il est important de relever. « Alors le Seigneur mit à leur tête des juges, et ceux-ci les délivrèrent du pouvoir des pillards. » Malgré les erreurs du peuple, malgré le peuple qui se détourne, Dieu a une solution. Et je crois que c'est vrai aussi pour chacun d'entre nous, c'est vrai aussi pour notre Église en général. Malgré nos erreurs, malgré peut-être des moments où on n'a pas su transmettre la foi, ou bien on échoue, ou bien on ne fait pas aussi bien les choses que dans la perfection, eh bien Dieu est là, Dieu soutient, Dieu envoie des solutions, Dieu nous encourage là-dedans. Et puis il a permis finalement qu'aujourd'hui, nous qui sommes là, nous avons cette foi-là, ça veut dire que ce trou entre les générations a été comblé finalement et se retrouve par la suite jusqu'à nous, donc depuis des millénaires. Alors pour terminer, ce texte nous partage l'importance de transmettre la foi. Et c'est une thématique qu'on relève en cette fin d'année. Depuis un an, chers enfants des KPJ, chers ados du KT, et puis ceux qui sont déjà descendus, les plus petits, vous avez écouté des choses, entendu des choses, vous avez découvert des histoires de la Bible. Je crois que dans chaque groupe aussi, il y avait une vraie préoccupation de pas seulement transmettre une connaissance, mais de transmettre une expérience aussi, de prier ensemble, d'essayer de découvrir qui est Dieu et comment être en relation avec Dieu. Alors on est heureux de ça, on est reconnaissant envers les moniteurs qui ont fait tout cela. Et puis, dans quelques minutes, j'aimerais proposer qu'on puisse prier pour nos moniteurs, prier pour les responsables des groupes, que Dieu les renouvelle pendant l'été, qu'il les bénisse pour tout ce qu'ils ont fait pendant cette année, et puis qu'il les équipe pour l'année suivante. Et puis alors, j'aimerais vous lancer aussi un petit défi, juste avant qu'on prie pour les moniteurs. Tout à l'heure, on a la chance d'avoir un apéro après le culte. Alors, je vous lance ce défi de génération en génération, avec la première personne avec laquelle vous allez parler à l'apéro, et ce n'est pas possible que ce soit quelqu'un de votre famille, vous devez aller vers quelqu'un d'autre. Si cette personne est plus âgée que vous, je vous propose de lui demander une expérience, un récit d'une expérience qui l'a marqué dans sa foi. Pourquoi vous croyez aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a marqué dans votre foi? Un verset, une prière, un miracle, je ne sais pas. Donc si la première personne avec laquelle vous discutez à l'apéro est plus âgée que vous, vous lui demandez une expérience de sa foi. Et puis, dans l'autre sens, forcément, la personne en face de vous aura quelqu'un de plus jeune en face d'elle. Et puis, alors pour ces personnes-là, je vous propose de partager une parole d'encouragement ou une bénédiction à la personne qui est plus jeune et avec laquelle vous discutez. Vous êtes prêts à relever ce défi pour grandir ensemble et puis louer Dieu ensemble dans notre Église ? Bien sûr, si vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas obligé, évidemment.